Berlin, et qui est aujourd'hui convoité par tous les journaux. Hein. Pendant très longtemps, on était en marge de la taille des journaux. Hein. Vous vous rappelez, les François, les Figaro, où il fallait avoir trois places pour ouvrir le journal. Bon, les DNA, même dans l'avion d'Air-Inter, on pouvait toujours le lire, ça allait, hein, c'est une taille suffisante. Aujourd'hui, pratiquement tous les journaux qui existent encore, et ceux qui se créent, sont revenus à des tailles qui sont assez proches d'une autre. C'est aujourd'hui la taille du Monde, c'est aujourd'hui la taille de l'Alsace, notre petit frère Aurinois, qui est à peu de choses près, à quelques millimètres près, exactement la même taille. Après, la taille d'un journal ne se change pas facilement, hein, parce que pour imprimer un journal, il y a un énorme engin industriel qu'on appelle une rotative, hein, qui est un truc très lourd, qui pèse plusieurs dizaines de tonnes, qui est un équipement qui coûte très cher, et qu'on installe à un moment donné, à un endroit donné, avec des configurations données qui font que on peut sortir un format, on peut sortir la moitié par une astuce d'impression, on peut sortir la moitié en retournant le journal. Hein. On sait faire ça, vous avez connu Reflet jusqu'il n'y a pas longtemps qui avait la moitié de la taille du journal, ça on sait faire, mais à part ça, il n'y a pas d'autre fantaisie possible. Hein. Donc quand on choisit un format, on y est condamné pendant un bout de temps. Alors je reviens à l'histoire, donc création 1877, vous savez ce qui s'est passé dans cette région entre 14 et 18. À ce moment-là, l'entreprise qui était allemande dans un contexte redevenu français a été spoliée et a été rapidement reprise par un groupe d'édition qui s'appelle Kié, que peut-être certains d'entre vous ont connu ou connaissent. C'était des spécialistes, des encyclopédistes, des gens qui vendaient des encyclopédies, notamment par démarchage à domicile dans les campagnes. Chez mes grands-parents, Brumat, ils avaient comme ça un truc sur le corps humain, dont je me souviens. Et en fait, Kié, si vous voulez, avait surtout acheté cette entreprise, pas tellement parce qu'elle faisait un journal, mais simplement parce qu'elle avait une imprimerie. À cette époque-là, les technologies étaient proches. Voilà ce qui a conduit Kié à racheter les DNA. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à retenir, si vous voulez, parce qu'elles ont été créées par un Allemand dans cette région, avec les faits d'histoire que l'on connaît, c'est une entreprise qui jamais n'a jamais véritablement appartenu à la région. Ça, c'est l'un des paradoxes qui m'agace. Alors aujourd'hui, bon, on est nouveau, on y reviendra tout à l'heure, on est nouveau pratiquement dans la région, mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas, simplement du fait de son histoire. Donc, qui est ensuite, beaucoup plus tard, à travers des opérations successives, je les résume rapidement, je ne vais pas entrer dans les détails, sauf si ça vous intéresse, je ne pense pas que ce soit la partie la plus passionnante de cette intervention. On a été cédé par des histoires familiales. On est passé de Kié, donc d'une famille qui s'appelait Rocco, on est passé chez Lagardère, Jean-Luc Lagardère, à cette époque-là, patron de Matra. Hein. Ensuite, Matra est devenu Hachette, les DNA sont passés à Hachette. On est là dans les années 80. C'est à où... je sais pas ce que je fais, c'est à l'époque où, en termes de personnalité régionale qui opérait les DNA, vous avez connu probablement Jean-Jacques Hilotz. Jean-Jacques Hilotz a été obligé de quitter les DNA et été remplacé par Jacques Puymartin, qui était un homme choisi par le groupe Hachette, comme je l'évoquais tout à l'heure. Hein. Et un autre changement est intervenu, pratiquement, là je vous parle de mon ressenti, personnel comme un traumatisme très dur, les DNA ont été cédés en l'espace d'un week-end en 1993 et sont passés du groupe Hachette au groupe Hersant. Alors je m'arrête deux secondes parce que ça n'est pas d'autre. Quand en 1993, donc il y a 20 ans, vous expliquiez à quelqu'un qui travaillait dans la presse ou un journaliste qui passait dans le groupe Hersant, c'était pas perçu comme neutre. Hein. Bon, vous avez tous connu ou entendu parler de la personnalité de Robert. C'est pas le sujet, mais c'est quelque chose qui était considéré à l'époque comme le pire de ce qui pouvait arriver à un journal, si vous voulez. Hein. Alors, à Hersant, c'était chargé de plein de... Qu'est-ce qui se passe là, je dois bouger ou... C'est l'orage avant. C'était chargé de plein de significations, si vous voulez, qui n'étaient pas très agréables, très, très nobles pour la presse. Bon, c'est les histoires des sociétés, c'est des histoires capitalistiques, hein, ça s'impose à tout le monde. Et en fait, ça vient du micro. Oui, je ne sais pas, peut-être que je le tiens mal, ou je ne sais pas. Cette opération, en fait, était la conséquence d'une histoire assez, pour aller vite, gérée sordide, qui était liée à l'échec de la première cinquième chaîne de télévision française, qui était un enjeu entre ces deux groupes de presse, Hachette et R100. Et les DNA avaient été, dans le cadre de ce grand micmac entre ces deux groupes, les DNA avaient été inscrits dans un accord comme une monnaie d'échange, une monnaie de retour, que le groupe R100 pouvait préempter jusqu'au 30 juin 1993 à 18h. Plus personne n'y pensait, surtout pas le groupe Hachette, sauf Robert R100 et son fils qui, l'après-midi du vendredi 30 juin, se sont présentés chez Lagardère et ont dit « on prend ». Donc on a basculé. Ça a représenté des remous tout à fait importants à l'intérieur de la société pour les questions que je vous ai expliquées tout à l'heure. Beaucoup de peur, de crainte par rapport à quelque chose qui est sacro-saint dans la presse, c'est la liberté d'expression. En fait, il s'est avéré assez rapidement, les capitalistes sont quelquefois ennuyeux, mais ils ne sont pas toujours bêtes. Ils se sont rendus compte que, une fois de plus, on n'avait pas intérêt à toucher à la poule aux œufs d'or. Donc en fait, il ne s'est rien passé du tout. Avec le recul, je dois dire que c'est l'une des périodes les plus agréables que, de mon point de vue, mais je n'étais pas directeur général, que directeur commercial et du développement à l'époque, mais c'est l'une des périodes les plus agréables que j'ai connues dans mon expérience DNA. Donc ces peurs n'étaient pas justifiées, mais elles ont existé. En tout cas, chamboulement important, assez rapidement, Jacques-Louis Martin est parti, a été remplacé par un monsieur qui s'appelle Michel Nozière. Et dans l'opération de repli au persan, une autre société est intervenue de manière minoritaire dans le montage, autre journal de Nancy qui s'appelle L'Est Républicain, à travers une personnalité qui s'appelle Gérard Lignac, donc, qui est devenu en 93 un petit actionnaire des DNA. En 97, il s'est produit un nouvel événement important qui était lié à la succession de Robert R100, qui était quelque chose d'assez compliqué, parce que Robert R100, qui a été fidèle dans sa vie, a été un peu moins dans sa vie privée, a eu plein de lits, comme on dit, plusieurs enfants, donc c'était une succession très compliquée, et il a fallu se défaire d'une partie de l'Empire R100, qui comprenait des journaux, des imprimeries, des chaînes de télévision, des golfs, etc., et bien d'autres choses. Et dans ce cadre-là, en général, on vend les choses qui sont chaudes et qui sont bonnes à vendre. Ben, les DNA, malheureusement, qui ont toujours été considérés comme une entreprise intéressante, rentable, ont été vendus à cette époque-là. Et les choses, parce qu'elles sont très compliquées, si j'entrais dans les détails, disons qu'à travers un montage relativement compliqué, je ne pense pas que ce soit la prise de courant. Je continue. Non, ça vous embête, vous voulez que je me passe le micro? Non, ça va. Donc, où c'est que j'en étais? Donc, ont été l'objet d'un nouveau, d'une nouvelle recomposition capitaliste. Et c'est à ce moment-là, Gérard, qui, avec un montage bancaire, dont on a entendu parler, qui était très compliqué, de 17 banques à l'époque, a réussi, sans beaucoup d'argent, on peut le dire, mais on ne le répétera pas, a réussi à devenir le propriétaire d'Apple. Donc, depuis cette époque-là, depuis 1917, en fait, les DNA, en tant que société autonome, n'existent plus véritablement, si je puis dire. Elles sont une filiale, c'est encore le cas au moment où je vous parle, une filiale à 100% d'un journal aussi qui s'appelle L'Est Républicain. Voilà. Donc, c'est 1997. Plus récemment, il y a quelques années, il y a moins d'une dizaine d'années, en 2005, un nouvel épisode est intervenu. Dans le cadre du... Dans le cadre du...
Il faut le mettre en face, le micro, pas comme ça. Il faut le mettre comme ça, pas comme ça. Ça marche mieux. Comme ça, oui.
Comme ça ?
Oui.
Ah, c'est bien d'avoir des spécialistes. Non, c'est pas conclure. Vous m'entendez encore ?
Oui.
je disais, un nouvel, nouvel épisode. 2005, pardon. Nouvel épisode dans le cadre du démantèlement de cet empire de Robert Hersant. Un certain nombre de journaux étaient prenables, étaient disponibles. Hein. Et il y a un industriel qui s'appelle Dassault, que vous connaissez, qui s'est intéressé à une partie des journaux, notamment le Figaro. Dassault est toujours aujourd'hui propriétaire du Figaro qui appartenait à Robert Hersant. Et il s'était également intéressé dans un premier temps à quelques journaux régionaux qui appartenaient à Robert Hersant, des journaux que vous connaissez peut-être moins bien, ou encore un grand journal de Lyon qui s'appelle Le Progrès, et un autre grand journal, bon, il y en a d'autres, j'ai rien dit tout à l'heure, de Grenoble, qui s'appelle Le Dauphiné Libéré. Dans un premier temps, Dassault achète tout ça, puis dans un deuxième temps, décide de se séparer, en dehors du Figaro, des quotidiens régionaux. Et donc, à ce moment-là, Gérard Lignac, dont je vous ai parlé tout à l'heure, patron de l'Est républicain et patron président des DNA, qui, comme n'importe quel être humain et n'importe quel chef d'entreprise, ne vit pas que d'éléments rationnels, hein, mais aussi de fantasmes et d'envie, Gérard Lignac a rêvé toute sa vie d'être le plus grand patron de presse français. Il ne vous avouera jamais ça, mais je suis capable de vous le dire. Hein, j'ai vécu à côté de ce monsieur pendant des années, donc je peux dire, et c'est pas fait lui faire offense de le dire. Son ennemi, entre guillemets, était un autre propriétaire de presse qui s'appelle François-Régis Hutin, qui est le patron de Ouest France. Et Ouest France est le plus grand journal, le plus grand titre, pris individuellement, 800 000 exemplaires à peu près, donc il est autour de Nantes, Rennes, etc. Et Gérard Lignac, il s'affrontait notamment dans les relations professionnelles et syndicales professionnelles, a toujours considéré que l'homme qui était à dépasser, c'était François-Régis Hutin. Et le fait de voir que un certain nombre de grands titres, donc Le Progrès, Le Dauphiné, Le Bien Public, Le Journal de Saône-et-Loire et quelques autres étaient à prendre, ça l'a grisé. Hein. Et il a cherché, si vous voulez, tous les moyens pour avoir ces journaux. Dans un premier temps, il s'est allié à Philippe Hersant, celui-même qui était propriétaire des DNA, le fils de Robert Hersant, entre 93 et 97, et qui, entre-temps, avait installé sa tante TEN, en Suisse, pour des raisons que vous comprendrez bien, qui est aujourd'hui propriétaire de quelques journaux suisses, s'est noué intéressé à la presse française. Et donc, il s'est rapproché de Gérard Lignac en disant, ben, ensemble, on va racheter ces journaux. Et finalement, pour des histoires que je ne peux pas raconter ici, l'opération a capoté au dernier moment. Et c'est là que un monsieur qui a son siège social pas tellement loin d'ici, qui s'appelle Michel Lucas, est entré dans le jeu. Hein. Lui, il avait quelques pépettes, hein, ce que les autres n'avaient pas. Et probablement aussi, mais ça ne lui répétez pas, il y a certainement des gens entre vous qui le connaissent, hein, mais là je vous parle en toute franchise et on est entre nous, hein, on est entre amis, donc je dis ce que je pense, j'ai toujours fait ça, jusqu'à présent ça ne m'a pas trop mal, ça m'a pas trop mal réussi. Lui aussi, il avait des fantasmes, si vous voulez, d'être... Vous savez, il y a beaucoup de grands patrons qui ont toujours rêvé d'être propriétaires de journaux, hein, parce qu'ils s'imaginent qu'on peut faire avec des journaux des choses que d'ailleurs on ne peut pas faire. Laissons-les comme ça, hein, ça permet de régler des situations. Et donc, Michel Lucas, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, parce qu'il a une revanche à prendre sur lui-même par rapport à la presse et sur son passé, s'est rapproché de Gérard Lignac, qui a dit, bah, écoutez, moi j'ai ce qu'il vous faut, de l'argent, parce que Gérard Lignac a beaucoup de qualités, c'est un grand humaniste et un grand intellectuel, mais il n'a jamais eu beaucoup d'argent, enfin lui-même au moins. Et donc, bah, cette alliance est venue comme un miracle pour lui, il s'en est saisi. Et donc, ensemble, ils ont acquis ces journaux. Hein. Ce qui fait que du jour au lendemain, ce petit groupe, donc parti de Nancy, est devenu, avec 1 300 000 exemplaires, le plus grand groupe de presse français. Hein. Alors, cette opération s'est faite progressivement. Dans un premier temps, Gérard Lignac a contrôlé tout ça, hein, au moins en droit de vote, le Crédit Mutuel lui avait laissé l'essentiel des droits de vote, mais comme l'argent n'était pas là de son côté, que les difficultés sur lesquelles nous reviendrons aussi de la presse étaient de plus en plus claires, de plus en plus nettes, que les exploitations étaient compliquées, ben, il manquait tous les ans un petit peu plus d'argent. Hein. Et bon, ben, très longtemps quasi propriétaire à 90% de l'Alsace, du journal Alsace, hein, qui était notre ennemi à mort par rapport au DNA jusqu'à très peu de temps. Le journal Alsace, vous savez ce que c'est un autre très bon journal. On a la chance en Alsace d'avoir deux très bons journaux. N'empêche que pour nous, c'est un espace, c'est un concurrent. Donc l'Alsace, depuis une trentaine d'années, c'est à l'époque que je ne peux pas tout raconter parce qu'on n'a pas le temps. Si je vous dis Théo Braun, ça évoquerait quelque chose pour nous, hein, pour avoir trouvé l'Alsace, aussi au Crédit Mutuel, etc. C'est de cette époque-là. Et Michel Lucas avait fait à cette époque-là un premier passage qui n'était pas véritablement une réussite à l'Alsace. Hein, et donc, il est parti tout en restant Crédit Mutuel et il avait une espèce de vengeance à prendre. Et ça, c'est moi qui interprète. Propriétaire depuis une trentaine d'années de l'Alsace. Il y a une douzaine d'années, il y a un autre petit groupe de presse en Lorraine, à Metz, qui était détenu par une famille qui s'appelait la famille Pull de Mange, qui était à prendre. Pour quelle raison? Parce que Madame Pull, qui est une personnalité absolument exceptionnelle dans le domaine de la presse, est décédée. Elle a naturellement, comme ça se faisait dans ces journaux, c'était des entreprises familiales très souvent. Hein. La succession a été prise par son fils Mathieu, mais Mathieu était plus passionné par le golf et les chevaux que par le journal. Et bon, il a essayé pendant un certain temps et ça ne s'est pas très bien passé. Et assez rapidement, on a compris que ce journal était à vendre. Et à cette époque-là, le Crédit Mutuel, qui était déjà bien implanté en Moselle, a décidé d'acheter le Crédit Mutuel.
Le républicain, pardon.
Et donc, si vous voulez, avant l'opération dont je vous parle, DNA Récit Républicain, vous aviez déjà, si vous imaginez une carte de l'Est de la France, le Crédit Mutuel qui était propriétaire d'un journal à Metz qui couvre la Moselle, d'un journal à Mulhouse qui couvre le Haut-Rhin plus une partie de la Pays de Montbéliard, Franche-Comté, territoire de Belfort. À partir du moment où on pouvait réaliser l'opération de l'Est Républicain qui, du coup, détenait Nancy, les Vosges, à travers un journal qui s'appelle Liberté de l'Est, qui entre-temps est devenu Vosges-Matin, et en plus pouvait, en s'alliant avec Nancy, obtenir les journaux qui couvrent en gros la région Rhône-Alpes, c'est quelque chose qui donnait du sens dans l'esprit d'eux, ou qui au moins pouvait se justifier, pouvait être expliqué sur un plan rationnel au niveau du Crédit Mutuel. On retrouvait, si vous voulez, une zone de couverture de la presse qui, à peu de choses près, correspond à la zone d'exploitation du Crédit Mutuel Centre-Europe. Voilà. Donc, si vous voulez, cette cohérence, aujourd'hui, il y a une ligne continue depuis la frontière belge jusqu'au Vaucluse, hein, une douzaine de titres qui sont tous propriétaires du crédit, du Crédit Mutuel, qui représente, comme je le disais tout à l'heure, 1 200 000 exemplaires sur les un peu plus de 5 millions et demi que représente la presse quotidienne régionale française, donc quelque chose de tout à fait significatif. En même temps, ce mouvement, alors je quitte provisoirement très rapidement les DNA ou l'Est de la France pour vous donner une vue plus générale sur l'organisation de la presse. La presse, on aura l'occasion d'y revenir, est en difficulté, si vous voulez, hein, parce que c'est une technologie qui arrive un petit peu, pour les économistes, on parle de cycle de vie des produits, qui arrive plutôt vers la fin ou les dernières étapes d'un cycle de vie. Ça veut pas dire que c'est foutu. Mais bon, l'expansion, on l'a dans le dos, hein, on n'a pas forcément devant nous. Donc on est obligé, si vous voulez, de s'organiser autrement, de se regrouper, de faire des économies de moyens, etc. etc. Enfin, vous connaissez ça dans d'autres activités. Donc ce mouvement est pleinement engagé dans la presse. Le Crédit Mutuel a ceci comme objectif, c'est clair, hein, même si aujourd'hui, y compris dans ma propre entreprise, il y a des rétractions défensives très fortes, hein, parce qu'on n'aime pas, en matière de presse, d'information, on n'aime pas globalement les phénomènes de concentration, parce que quelque part, si vous voulez, c'est en contradiction avec la liberté d'expression, la démocratie, etc. Ça se discute tout ça, c'est un peu vrai, mais c'est pas totalement vrai. Et donc c'est des choses qui font un petit peu peur, si vous voulez, aux gens qui sont dans le milieu. Pourtant, c'est le seul moyen de s'en sortir. Et la carte de France est en train de s'organiser, si vous voulez, de cette manière-là. Rien qu'en Alsace, vous vous souvenez d'une époque où il y avait encore plusieurs journaux en Alsace. Hein. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus que deux. Hein. Juste avant, il y en avait encore trois avec le Nouvel Alsacien. maintenant des phénomènes de regroupement. Et en fait, on se dirige à l'heure actuelle, si vous voulez, vers 3 ou 4 groupes de presse qui probablement, dans 2-3 ans ou plus tard, contrôleront ce qui reste de la presse quotidienne régionale. Alors ces groupes, il y en a un dont je vous ai parlé, dont je suis l'un des éléments, c'est le Crédit Mutuel. Ensuite, vous avez en dessous un groupe qui est notre ancien groupe dont j'ai souvent parlé, qui est le groupe Persan, qui en gros, si vous voulez, couvre l'arc méditerranéen, si vous voulez, mais qui est un groupe qui est en difficulté énorme, hein, puisque le fils Persan, tout en étant implanté en Suisse, n'a absolument pas réussi, si vous voulez, à maintenir le patrimoine, le capital que son papa avait construit avec des moyens que chacun pourra critiquer, mais ça c'est une autre affaire. Hein. En tout cas, Philippe Persan a fait le choix, le fils, a fait le choix d'investir dans les journaux gratuits, d'une part, énormément, c'est-à-dire il a quitté ses activités de base pour se concentrer sur les journaux gratuits et pour se concentrer sur les télévisions régionales. Hein. Ce sont deux mauvais choix. Les journaux gratuits sont pratiquement en train de disparaître. Je ne parle pas de la deuxième génération de journaux gratuits qui sont ce qu'on appelle les gratuits, merci c'est gentil, qui sont les gratuits rédactionnels comme 20 minutes ou Métro qui vont pas trop mal encore pour l'instant, ça va peut-être pas durer, mais je parle des journaux gratuits comme ceux que nous en avions un au DNA qui s'appelait MAS, les autres gratuits qu'on a pratiquement dans toutes les régions, qui ne vivaient que de la petite annonce et qui vont très mal. Or, le groupe Persan avait surtout investi là-dedans, donc ils ont perdu énormément d'argent avec ça et avec la télévision régionale. Alors, j'en ai une ici en Alsace, Alsace-Rhône, hein, dont je suis responsable, et je sais ce que ça coûte. Hein. Donc, c'est deux mauvais choix et qui ont mis complètement le groupe à terre. Et aujourd'hui, ils cherchent désespérément une solution. En Suisse, ça va, merci. Mais en France, ils sont dans un état absolument lamentable. Donc les journaux du Sud, la Provence, Nice Matin, etc., sont à vendre, de même que les autres journaux qui appartiennent à l'ensemble du groupe. Alors il y en a un qui est juste à côté de notre groupe Crédit Mutuel, du côté de Reims, qui s'appelle Union, qui est en très mauvaise posture. On parle actuellement de 250 licenciements sur 600 dans ce journal. Et il y en a un qui est en déconfiture totale, qui s'appelait Paris-Normandie. Bon, voilà. Alors, ce groupe, à l'heure actuelle, est dans le viseur d'un autre groupe qui est en train de se constituer autour de la Voix du Nord. Hein. Le journal de Lille, un grand journal de Lille, à peu près deux fois plus important que les DNA, et qui est détenu déjà depuis quelques temps par un groupe belge qui a jeté son dévolu sur une partie de la France, qui est un groupe qui s'appelle Rossel, qui est notamment propriétaire d'un journal, un grand journal d'expression française en Belgique qui s'appelle Le Soir. Et ce groupe Rossel est en train de s'intéresser au groupe, ce qui reste du groupe Persan, dont je parlais tout à l'heure, mais en disant à Persan, on vous reprend quand vous aurez fait le sale boulot, hein, c'est-à-dire quand vous aurez élagué ce qui ne nous intéresse pas beaucoup, notamment Reims et Le Havre, Rouen. Voilà, donc voilà, j'ai trois groupes. Ensuite, vous avez l'Ouest France, qui est historiquement un groupe important depuis très longtemps à travers le Ouest France et qui s'est renforcé ces dernières années, là aussi en charognant, si je puis dire, quelques petits titres qui autour, Presse Océan, etc. Certains d'ailleurs du groupe Persan qui étaient à prendre. Et puis, vous avez quelque chose qui était en train de se créer autour dans le centre de la France, autour d'un journal qui s'appelle La Montagne, donc qui a son siège à Clermont-Ferrand. Et dont le président, dans un système de propriété, de fondation un petit peu compliqué, s'appelait Jean-Pierre Caillard, un monsieur de 65 ans, qui est décédé brutalement il y a quelques semaines, et donc c'est en recomposition, c'est pas très bien comment ça va aller. C'est son épouse qui pour l'instant a pris la suite. Et c'est un groupe qui est en train de grappiller un petit peu les journaux de Tours, notamment le journal de Tours, qu'on appelle un NRCO pour ceux qui connaissent, le journal du centre, etc. Voilà, on a fait presque la carte de la France, il nous reste le sud-ouest. Alors là, c'est un peu flou pour l'instant. Il y a un gros journal qui s'appelle d'ailleurs le sud-ouest. Hein. Vous avez la Dépêche du Midi et le Midi Libre. Alors donc, ils sont trois journaux en moyenne bonne santé. Celui qui se porte le mieux, c'est sud-ouest. Et qui probablement pourra, lui, qui a déjà des intérêts dans l'un des deux autres que j'ai cités, qui pourra peut-être être le noyau d'un autre regroupement et qui pourrait d'ailleurs, il y a déjà des lien historique entre Sud-Ouest et Ouest-France, se rapprocher de Ouest-France. Hein. Donc à terme, si vous voulez, en fait, il y aura 2, 3, maximum 4 groupes qui contrôleront ce qui restera de la presse quotidienne régionale française. Au total, ça représente une soixantaine de titres hein, qui restent, alors que juste après la guerre, il y en avait 200. Hein. En Allemagne, si vous comparez, il y en a encore 400, 450. On est dans une structure tout à fait différente. Voilà, si vous voulez, un survol très rapide de l'histoire des DNA et le contexte actuel. Alors sinon, quelques éléments, c'est le deuxième point, mais ce sera peut-être le dernier, mais peu importe. Je voulais aborder, c'est que les particularités des DNA. Bon, là, je vais faire preuve d'un petit peu d'autosatisfaction, mais ça n'est quelque part que la réalité. Les DNA sont considérés comme le fleuron de la presse quotidienne régionale en France, hein, à travers son contenu. Alors bon, c'est moins bien aujourd'hui que ça l'était il y a 10 ans, il y a 20 ans, je le sais. Les moyens ne sont plus les mêmes. Hein. Mais les DNA, si vous voulez, avaient une couverture journalistique, par exemple, qui était hors du commun pour un quotidien régional. Hein, quand il y avait un grand conflit quelque part, ben, les DNA étaient le dernier quotidien régional français pendant 20 ans à envoyer sur place un journaliste dans chaque camp pour faire vivre aux lecteurs. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans cette configuration. On essaie de le retrouver dans le cadre de ce qu'on va essayer d'organiser avec le Crédit Mutuel, si vous voulez, pour mutualiser, pardon, les moyens et s'y répartir. Mais ce n'est pas évident à faire parce qu'il y a le fameux rempart social que j'ai évoqué tout à l'heure et les... Les difficultés qu'on a quand on veut transformer des choses en particulier dans ce milieu. Mais ça reste, si vous voulez, comme si vous comparez ça avec vos journaux de vacances, hein, bar matin, etc., ce genre de choses, il y a une qualité en dehors du contenu qui n'a rien à voir avec ces journaux. Hein. Sinon, c'est aussi particularité du format, que j'ai évoqué tout à l'heure, système de cahier, hein, qui est la pire et la meilleure des choses. Hein. Pour les gens qui ne connaissent pas, ils trouvent ça absolument insupportable hein, d'avoir un journal qui part en morceaux. Bon, pour les Alsaciens, il n'y a pas mieux que ça, hein, quand ça permet de partager, machin, etc. Sauf quand on est concerné un jour, et je ne le souhaite à personne, mais bon, la nature est ainsi faite, sauf les annonces de décès. Les annonces de lecteurs ne comprennent pas pourquoi les annonces de décès sont réparties sur 3 ou 4 cahiers. Bon, ben simplement parce que techniquement, on ne peut pas faire autre chose. Je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais je pourrais vous l'expliquer. Donc, tout avantage à ces inconvénients, le format, les cahiers. La technologie, hein, si vous voulez, on a toujours été à la pointe de la technologie. On a été le premier journal, si vous voulez, à être entièrement réalisé en photocomposition, la technologie élaborée, si vous voulez. L'un des premiers à être directement computer to plate, c'est-à-dire on fait directement les plaques qui vont sur les rotatives, si vous voulez, on ne passe plus par des faces intermédiaires. On a été parmi les premiers journaux à faire de la quadricromie. Hein. Alors aujourd'hui, il y en a qui font des compositions, toutes les pages, nous on ne sait pas encore toutes les pages, parce qu'on n'a pas qu'une rotative, on en a plusieurs, et toutes les rotatives n'ont pas les mêmes performances, mais bon, à terme, ça va.
C'est la couleur, 4 couleurs,
hein, c'est plein de couleurs. Donc il y a dans notre métier, il y a la noir et blanc, la couleur d'accompagnement, c'est-à-dire on met simplement du rouge sur une page, ou la quadrichromie, c'est-à-dire des photos couleurs, etc. Alors la plupart des journaux aujourd'hui sont capables de faire ça sur toutes les pages, nous on ne peut pas le faire sur toutes les pages, on peut le faire que sur la moitié des pages. Bon après c'est une question, est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas, on est dans une époque de couleurs, c'est vrai que pour les jeunes, c'est un critère déjà. Puisque j'en suis à la technologie, alors il y en a une qui est très ravageuse, hein, c'est Internet, enfin, on ne peut pas faire la presse sans évoquer ça. Ça aussi, on ne sait pas très bien où ça va nous conduire. On a été là aussi, pour montrer notre sens pionnier, on a été le premier journal en France en 1995 à être entièrement accessible sur Internet. À l'époque, c'était lunaire, personne ne voyait. Il y a 15 ans, 16 ans, personne ne voyait que exactement ce à quoi ça pouvait mener, ce à quoi ça pouvait servir. Mais on a chez nous, dans une filiale, un espèce de personnage génial qui s'appelle Michel Mandaret, qui un jour, vous avez vu cette technique quelque part, au Japon, il dit, ça serait bien que tu le veux pour quand, je te le
ça crée des habitudes entièrement faussées par rapport au journal, notamment c'est vrai de manière hantée, ce qui est quand même quelque part gênant, parce que bon, pour faire du journal, il faut du monde, il faut payer ce monde, etc. Or, Internet a un produit de culture de gratuité et de compétition terrible, parce que bon, moi je peux très bien décider de ne rendre rien gratuit sur Internet, mais si moi je ne le fais pas, d'autres le feront à ma place. Donc si vous voulez, on est dans un système très complexe et très compliqué. Mais en tout cas, il n'y a pas véritablement de modèle économique pour l'instant, c'est pas très bien où ça va nous conduire. C'est l'une des grandes interrogations, et dans le temps que si les journaux doivent survivre, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire en sorte qu'une partie d'Internet, celle liée à l'information, devienne progressivement payante. C'est vite dit, c'est vite pensé, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Autre particularité très intéressante pour les DNA, c'est le mode de diffusion, le mode de distribution, hein, que vous connaissez peut-être, le portage à domicile. Hein, c'est quelque chose d'assez exceptionnel dans la proportion où nous le faisons, puisque sur la diffusion totale des DNA, si vous voulez, 87% correspond à des abonnés. Hein, donc ça, c'est pour l'exploitation de l'entreprise, c'est tout à fait intéressant. Ce qui est à l'opposé de ce qui se pratique normalement, la plupart des journaux sont vendus au numéro, comme on dit. Hein, c'est-à-dire, on va tous les jours chez son, etc. etc. L'Alsace, avec quelques autres régions, il ne faut pas exagérer non plus, mais surtout l'Alsace est une exception de la matière, puisqu'on fonctionne essentiellement sur un système d'abonnement, donc 87%. Et ce système d'abonnement a pu être construit, et c'est le grand héritage.